Bonjour à toutes et à tous, une émission spéciale aujourd'hui. Bienvenue à Agathe.
Bonjour Emeline.
Dans le cadre d'un atelier organisé au Pôle Jeune du Sisteron, durant les vacances d'automne, nous vous proposons une émission spéciale sur le thème des droits de l'enfant.
Oui, cela fait plusieurs années que Sisteron s'engage auprès de l'UNICEF à travers le label Ville Amie des Enfants. Notre radio est depuis sollicitée afin de mettre en valeur les opérations menées dans la ville, notamment chaque 20 novembre, date de la Journée internationale des droits de l'enfant. Une journée qui coïncide également avec le coup d'envoi officiel des événements organisés durant plusieurs semaines dans la ville. Manel, Zachariae, Nina, Nadir et Vidiane sont les reporters engagés 2014 de Sisteron. Voici leur émission qu'ils ont réalisée aux côtés de Patrice Vernet pour Fréquence Mistral, Hélène du Pôle Jeune et Nadia de l'AGOC.
Nous sommes les jeunes reporters engagés de Sisteron.
Nous avons suivi le stage de Fréquence Mistral en partenariat avec les services de la jeunesse de Sisteron, le centre municipal de loisirs, le pôle jeune et la GOC, dans le but de réaliser une émission sur le thème des droits des enfants.
Aujourd'hui, nous vous proposons d'entendre le contenu de notre travail qui lance officiellement plus d'un mois de manifestations dans la ville de Sisteron.
Reportages, poésie et chansons sont dans la carte durant la prochaine heure.
Nous en serons davantage sur les missions confiées à l'UNICEF à travers le témoignage de Philippe Combe, président de l'antenne des Alpes de Haute-Provence.
Sisteron est une ville amie des enfants. Le maire Daniel Spagnot rappelle combien ce label est difficile à obtenir. Il évoque également l'engagement de cette ville envers la jeunesse.
Nous avons dialogué avec Augustin Baudouin, ancien jeune élu au CMJ de Sisteron. C'est durant sa mandature que la convention Ville Amie des Enfants UNICEF a été signée.
Vous entendrez également Marc Zlaïji, éducateur pour la protection juridique de la jeunesse. Il vient en aide aux jeunes en difficulté.
Enfin, Christophe Léon, adjoint à la jeunesse, donnera le programme et les objectifs d'un mois d'action sur le thème « Jouer, c'est partager ».
L'émission sera ponctuée de plusieurs poésies courtes lues par Armel et Carmen de la médiathèque André Romain.
Et nous terminerons avec une chanson écrite pour l'UNICEF par Toufan. Novembre 2014, c'est aujourd'hui la Journée internationale des droits de l'enfant qui vise à favoriser le bien-être de l'enfant dans le monde entier. Cette date a été choisie car elle coïncide avec la date anniversaire de la signature, le 20 novembre 1989, de la Convention internationale des droits de l'enfant. 54 articles adoptés par les Nations Unies affirmant qu'un enfant n'est pas seulement un être fragile qu'il faut protéger, mais que c'est une personne qui a le droit d'être éduquée, soigné, protégé, quel que soit l'endroit du monde où il est né. Et aussi qu'il a le droit de s'amuser, d'apprendre et de s'exprimer. L'UNICEF a été chargé de cette mission. Nous avons rencontré le président départemental 04, Philippe Camp, pour en savoir davantage.
Bonjour, je m'appelle Manel. Que signifie le sigle UNICEF ?
Bonjour, le sigle UNICEF, c'est un sigle en anglais. L'UNICEF a été créé juste après la guerre par la Société des Nations pour venir au secours des enfants devenus orphelins à la suite de la guerre. Et ça dépend de l'ONU maintenant. Tu sais ce que c'est que l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, auquel tous les pays du monde adhèrent. Eh bien, l'UNICEF dépend de l'ONU, et donc ça veut dire United Nations International Children's Emergency Fund. Ça veut dire que ce sont les fonds d'urgence qui sont gérés par l'ONU pour les enfants.
Bonjour, je m'appelle Widienne. Quel est le rôle de l'UNICEF ?
L'UNICEF vient au secours des enfants. Il y a des manières multiples de le faire. Par exemple, aujourd'hui, il y a Ebola. Tu sais ce que c'est, Ebola ?
Oui.
ce virus qui sévit dans 3 pays d'Afrique, laisse malheureusement énormément d'orphelins. Les parents décèdent, l'UNICEF les prend en charge. Le travail de l'UNICEF, c'est de donner un avenir à ces enfants dont la maladie a décimé les parents.
Bonjour, je m'appelle Nina. Quelle est sa devise ?
Devise, en a-t-il vraiment une ? La devise, c'est de venir au secours de tous les enfants du monde. Voilà, je n'en vois pas d'autre.
Bonjour, je m'appelle Nadir. L'UNICEF est-elle composée uniquement de bénévoles ?
Non, l'UNICEF n'est pas uniquement composée de bénévoles, puisque au CFU, au comité français de l'UNICEF, il y a des salariés qui travaillent tous les jours. Ils sont une centaine sur toute la France. Et puis, il y a aussi, surtout, sur le terrain, en Afrique, en Asie, etc., des gens, des médecins, des infirmières qui sont salariés de l'UNICEF pour justement venir en secours de ces enfants. C'est pour ça que nous collectons des fonds, c'est pouvoir donner des moyens sur le terrain à des gens de venir au secours des enfants.
Est-ce que l'UNICEF se rend dans les pays en guerre ?
Bien sûr, c'est une de ses premières missions. En fait, l'UNICEF intervient dans 2 cas de figure importants, c'est ou des catastrophes naturelles ou maladies, etc., comme tremblements de terre, tsunamis, ou justement dans les pays en guerre qui laissent malheureusement de nombreux orphelins. Malheureusement, les hommes trouvent toujours de bonnes raisons de se faire la guerre et l'UNICEF, beaucoup de travail derrière.
Comment l'UNICEF protège-t-elle les enfants ?
Alors, la devise, c'est en effet secourir, protéger, éduquer. C'est-à-dire qu'il faut secourir parce qu'il faut intervenir rapidement quand il y a des risques de mort, tout simplement des enfants. Il faut savoir qu'il en meurt des milliers par jour en Afrique, des enfants, pour des raisons diverses, à cause du sida, à cause de bien d'autres maladies, à cause des problèmes de famine, ne serait-ce que de la maman. Nous aidons d'abord la maman pendant sa grossesse, et puis ensuite, après l'accouchement, pour lui permettre d'allaiter son enfant, parce qu'allaiter un enfant, c'est le protéger contre des tonnes de maladies, etc. Et ensuite, on nourrit les enfants. Programme de 1000 jours pour qu'ils puissent aller jusqu'à leurs 3 ans, et puis programme de 2000 jours jusqu'à leurs 5 ans. Et ensuite, une fois qu'ils ont passé tous ces caps, eh bien, ils arrivent à leur 6e année et intervient l'éducation, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que tous les enfants, garçons et filles, et dans beaucoup de pays pour les filles justement, tu fais bien de poser cette question, c'est très difficile qu'ils puissent aller à l'école, eh bien, nous faisons en sorte que les filles aillent aussi à l'école.
Quels enfants ont le plus besoin de l'UNICEF ?
Alors là, il n'y a pas de catégorie. Il y a des endroits, malheureusement, géographiques dans le monde. L'Afrique, le Sahel, où il règne une famine, l'Asie du Sud-Est, les endroits où il y a des catastrophes. Chaque fois que c'est nécessaire, on est là.
L'UNICEF protège-t-elle tous les enfants ?
Tous ceux qui en ont besoin, bien sûr. Tu sais, on a même des programmes en France. Regarde le sondage qui est récemment paru sur, justement, la manière dont les adolescents vivent. Aujourd'hui en France, on a eu des résultats surprenants, puisqu'un certain nombre d'adolescents sont très mal dans leur peau en France. Des risques de suicide, des enfants qui ne comprennent pas un certain nombre de choses, la manière dont les adultes, les parents leur transmettent l'éducation. Ils ont du mal à comprendre certaines choses, il faut les aider, il faut les accompagner. L'UNICEF a fait récemment un sondage autour de tous les enfants en France, et les résultats, eh bien, il faut les lire. 17% des enfants, des jeunes adolescents, ont pensé au suicide. C'est pas quelque chose de très simple. Vivre en Afrique pour un enfant, la première chose importante est de survivre. Et dans nos pays industrialisés, les jeunes disent « pourquoi vivre ?» C'est quand même un dilemme énorme.
Quels sont ces moyens de financement ?
Alors, les moyens de financement de l'UNICEF sont d'abord les États. Un grand nombre d'États dans le monde versent chaque année une certaine somme à l'UNICEF. Et puis, il y a tout le réseau de bénévoles qui agit dans les pays industrialisés. Alors, nous sommes, nous, au niveau des Alpes de Haute-Provence, notre petit comité, des petites fourmis qui, chaque jour, récoltent ici 50 euros, ici 20 euros, ici parfois plus quand on fait une manifestation comme bientôt à Sisteron où il y aura un concert. Et cet argent est récolté par le comité français de l'UNICEF et ensuite, ça part au siège de l'UNICEF qui se charge, en effet, de donner des moyens sur le terrain aux gens qui travaillent auprès des enfants.
Sisteron est une ville amie des enfants. Est-ce difficile et quels sont les critères pour le devenir ?
Alors là, je vais t'expliquer que la ville de Sisteron, qui a souhaité rester ville amie des enfants avec la nouvelle équipe municipale, toujours autour de M. le maire, bien sûr, doit remplir de nouveau un dossier pour le temps de la mandature. Alors ce dossier doit faire 40 ou 50 pages. Je ne vais pas t'exposer le contenu parce qu'on va prendre l'antenne pour un bon moment. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'il y a des critères importants. Et l'un des critères, c'est vous. C'est la parole justement donnée aux enfants, donnée aux jeunes qui peuvent s'exprimer. Voilà un des critères. Est-ce que la ville donne la possibilité aux jeunes de s'exprimer? Eh bien, insisteront, oui.
L'UNICEF pourrait-elle être touchée par la corruption?
La corruption, elle peut toucher tout le monde et n'importe qui. Compte tenu du nombre de bénévoles à l'UNICEF, il pourrait y avoir une personne, en effet, qui mette de l'argent peut-être dans sa poche ou qui le voue à d'autres choses que l'UNICEF. Mais l'intérêt de l'UNICEF, c'est son organisation très américaine, c'est-à-dire très structurée. Chacun est recontrôlé par quelqu'un d'autre. Et je pense qu'il est très difficile que de l'argent puisse être dévoyé. J'oserais presque répondre non. C'est pas possible.
L'UNICEF a-t-elle déjà rencontré des difficultés?
Ah mais bien sûr que nous avons des difficultés lorsqu'il y a une urgence comme Ebola actuellement. Il faut trouver très rapidement des fonds. Alors nous avons nos fonds de secours que nous gardons, n'est-ce pas, pour justement intervenir dans des cas comme ça. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 6 urgences ensemble. Ça n'est jamais arrivé depuis 1945. Entre la Centrafrique, entre l'Irak, entre la Syrie, entre Ebola, etc., etc. 6 urgences actuellement en cours ensemble. Alors oui, on peut dire que quelquefois on a des difficultés en effet parce qu'il faut rapidement récupérer des fonds.
Comment peut-on aider l'UNICEF?
Eh bien, il y a 2 manières d'aider l'UNICEF. Et ces 2 manières, c'est la mission des bénévoles que nous sommes. C'est faire savoir ce qui se passe dans le monde. Ça s'appelle des plaidoyers, c'est-à-dire aller dans les classes des écoles, le faire savoir aux enfants, le faire savoir aux adultes, au travers des conseils municipaux, au travers de différents groupes. C'est une première chose. Et puis, en s'appuyant sur ce que l'on exprime, il faut récolter des fonds pour justement donner des moyens à tous ces gens qui soignent les enfants au travers le monde.
Merci.
Merci à vous, surtout les jeunes.
Écoutons à présent Armel et Carmen de la médiathèque André Roman pour une première lecture poétique « Paix comme poulet ».
Pour le thème de « Ville amie des enfants, jouer c'est partager », nous avons choisi les jeux de mots, jeux de langue. Ce sont des poèmes, extraits du livre « Le tireur de langue », anthologie de poèmes insolites, étonnants ou carrément drôles, de Jean-Marie Henry. Les illustrations sont les sculptures de Roland Roux, tout cela paru aux éditions Rue du Monde. « Paix comme poulet ». Au myosotis, de Joël Brière.
Ingrédients. Se procurer.
Un petit poulet tendre.
Un bouquet de myosotis.
Une pincée de vin.
Une cuillerée de miel.
Un zeste de soleil.
Préparation et dégustation.
Caresser le petit poulet tendre de la crête au croupion.
Mettre le bouquet de myosotis dans un vase bleu ciel.
Y ajouter la pincée de vin et le zeste de soleil.
Sans plus.
Déguster. Lentement la cuillerée de miel en regardant le petit poulet tendre picoré sur la pelouse.
À midi, pendant que les autres sont à table.
Sous l'impulsion de son maire, Daniel Spagnou, la municipalité de Sisteron s'engage avec force envers la jeunesse. Ainsi, un pôle jeune a été créé pour apporter des réponses aux nombreuses questions que peuvent se poser les jeunes. Le CMJ joue un rôle important dans les décisions prises en faveur de la jeunesse. L'investissement est également conséquent pour les associations comme l'AGOC qui dispense des heures de soutien scolaire en faveur de tous les jeunes cisteronnais. Le centre des loisirs nous accueille et nous permet de réaliser des activités comme reporter engagé aux côtés de Fréquence Mistral. Sisteron, ville amie des enfants, UNICEF, a été un objectif essentiel, assuré Daniel Spagnou, qui se dit également fier de sa jeunesse sisteronnaise. C'est ce qu'il nous confie.
Bonjour Monsieur Daniel Spagnou, je m'appelle Zacharia. Est-ce important d'avoir obtenu ce label?
Ah oui, parce qu'il y a très peu de villes en France qui ont le label, ce qui est dommage d'ailleurs parce qu'il y a 36 000 communes dans notre pays et je crois qu'il n'y a que 250 villes qui ont le label. C'était important, oui, pour moi, pour vous, pour la population. C'était montrer que Sisteron était une ville ouverte où on peut y vivre heureux, quelle que soit l'appartenance géographique, quelle que soit l'appartenance politique, même quelle que soit finalement l'appartenance familiale aussi. C'est ça l'intérêt, c'est de réunir tout le monde dans un projet commun.
Comment la ville a obtenu le label Ville amie des enfants?
Il a fallu être candidat à Paris. Après, il a fallu remplir un dossier, puis surtout mener un certain nombre d'actions pendant toute une année avant d'avoir le label. Et une fois que le label a été obtenu, après, ça a été beaucoup plus facile. Mais je dois dire que la première année, c'est un petit parcours du combattant. On doit montrer que toute la population, et notamment les jeunes, sont mobilisés autour de ce projet.
Est-il possible de perdre ce label?
Ah oui, on peut perdre le label, ça c'est sûr. D'ailleurs, On a remonté tout un dossier, on est en train d'y travailler. Si on ne continue pas les actions, si au contraire on ne va pas de l'avant, il faut encore aller en faire plus. Il faut que vous mobilisiez encore plus, vous les jeunes. Et c'est bien que vous ayez fait ce travail-là dans le cadre du centre de loisirs. Je vous félicite parce que c'est vous maintenant qui allez faire vivre le label UNICEF.
Est-ce que la jeunesse a une place importante dans la ville?
Ah ben, je crois qu'on a prouvé depuis des années, mon conseil municipal et moi-même, que Sisteron est vraiment la ville exemplaire pour la jeunesse, déjà en créant un département jeunesse qui n'existait pas ici à Sisteron et en faisant plein d'activités. Le centre de loisirs où vous êtes en ce moment en est une preuve, bien sûr. La jeunesse, c'est l'avenir de Sisteron.
La municipalité fait quoi pour la jeunesse de Sisteron?
Elle a permis qu'on soit ville amie des enfants, on a développé le centre de loisirs, on a développé toutes les crèches, haltes garderies, les études surveillées le soir, certaines qui sont là en ont profité, ça n'existe pas ailleurs. Voilà, on fait plein d'actions, on vous permet également de participer à beaucoup d'associations sportives. Vous savez que la ville de Sisteron est la ville sportive par excellence du département. Pour une ville de 8000 habitants, vous avez tous les sports qu'on peut pratiquer à l'heure actuelle. C'est à vous maintenant d'y aller et de profiter des animateurs municipaux qu'on a mis dans de nombreuses associations et qui sont à votre disposition. Parce que le sport, c'est la meilleure école de vie. Si vous allez faire du sport tous, eh bien, vous allez apprendre à vivre ensemble, à vous aimer, à vous apprécier, parce que justement, vous faites du sport.
Justement, est-ce que la GOC est une organisation importante?
Ah ben oui, c'est une organisation importante qui est unique aussi, puisque elle n'existe qu'à Sisteron. Elle est partie toute petite et puis maintenant elle a pris l'ampleur. Parce que non seulement il y a des études surveillées, bien sûr, mais il y a également plein d'animations qui sont créées avec des animateurs, des animatrices. Et là, Nadia en est la preuve ici, qui est avec vous. Bien sûr, la JOC est indispensable et à un moment donné, on a eu très peur qu'elle disparaisse puisque l'État, le gouvernement exactement, qui aidait la JOC jusqu'à maintenant, a décidé, par mesure d'économie, de ne plus nous aider. Et du coup, c'est la commune de Sisteron qui finance la part de l'État.
Est-ce que c'est important de disposer d'un pôle jeune?
Mais bien sûr, un pôle jeune, ça veut dire pour les tout-petits, mais ça veut dire pour les moyens comme vous, puis ça veut dire pour les grands. Parce qu'un pôle jeune, ça veut dire aider aussi les jeunes à trouver du travail, à se former pour en obtenir du travail, les aider à obtenir des stages. Il n'y a pas que l'animation, il n'y a pas que le sport, il y a aussi tout ce côté-là, ce côté insertion professionnelle des jeunes dans la cité. Donc c'est très 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 important d'avoir un pôle jeune, même si ça coûte très cher à la collectivité. Je crois que c'est un choix politique que nous avons fait, que nous allons continuer.
Êtes-vous fier de votre jeunesse sisteronaise?
Ah oui, je suis très fier de ma jeunesse sisteronaise, oui. D'une part parce qu'elle se comporte plutôt bien, même s'il y a quelques petits problèmes, mais c'est normal, c'est la société qui le veut. Mais dans l'ensemble, on a une belle jeunesse qui a appris à vivre ensemble. Je crois que ça, c'est important. Il y a beaucoup de la solidarité qui joue à Sisteron plus qu'ailleurs. Donc oui, je suis très très fier de la jeunesse sisteronaise.
Merci.
Merci à vous.
Avant le prochain interview, retrouvons un nouveau petit poème d'Armen et Carmen. Est-ce vous? Extrait du livre Le tireur de langue.
Est-ce vous? De Philippe Soupeau.
Qui est fou?
Est-ce moi? Est-ce vous?
Est-ce le temps avec sa faux?
Ou la cloche qui sonne faux?
Est-ce le père? Est-ce l'enfant?
Est-ce le cerf ou bien le fin?
La nuit et tous ses parfums?
Le rêveur et ses songes sans fin?
Celui qui mange sans avoir faim?
Est-ce vous? Est-ce moi enfin?
C'est moi, c'est vous.
Il faut aimer à la folie.
Croire au songe et à l'oubli.
Bien sage et qui l'avoue.
Augustin Baudouin a été membre du conseil municipal jeune de Sisteron. Il assure que cette aventure ne lui a laissé que de bons souvenirs. Durant sa mandature, plusieurs projets ont été réalisés. La soirée Jeunes Talents, le skatepark et surtout la signature de la convention Ville Amie des Enfants UNICEF. Selon Augustin, s'engager pour sa ville, c'est plus que bien. Écoutons-le.
Bonjour Augustin, c'est quoi et quel est le but d'un CMJ?
Le conseil municipal jeune, lui, il a pour but de donner sa place à la jeunesse dans la ville. Et le conseiller municipal jeune, il a une mission que lui confient les gens qui vont voter. Et lui, il doit faire de son mieux, il doit s'engager pour faire déjà ce qu'il a envie dans la ville. C'est important de faire ce qu'on a envie parce que sinon c'est pas très motivant. Et puis pour améliorer la vie de ceux qui l'ont élu.
Pourquoi vouliez-vous faire partie du CMJ de Sisteron?
Et bah moi, quand je suis arrivé juste l'année où j'ai été élu, j'étais nouveau dans la ville, je la connaissais pas bien, je connaissais pas beaucoup de monde, et du coup j'ai eu envie déjà de m'approprier un petit peu la ville, parce que c'est important de connaître la ville dans laquelle on vit. Puis j'avais aussi envie de rencontrer du monde, parce que comme je l'ai dit, je connaissais personne, et du coup pour moi ça a été une superbe expérience de rencontre et d'enrichissement personnel.
Comment se déroulent les élections?
C'est au collège qui accepte de faire ça en son sein, donc c'est bien. Et du coup, c'est un mandat de liste, enfin une élection de liste. Et c'est tous les collégiens qui vont voter, et ils votent pour des listes, et puis après, c'est à la proportionnelle.
Quelles sont les résolutions prises durant votre période d'élu?
Qu'est-ce qu'on a fait? On a lancé la soirée Jeunes Talents, on a lancé le partenariat qui dure toujours avec l'UNICEF pour Ville Amie des Enfants. L'idée, elle n'est pas venue de ma commission, elle est venue de notre commission. Mais c'est vrai qu'on s'est très vite rendu compte que c'était un gros projet, un partenariat important. Et on s'est tous sentis concernés parce que Ville Amie des Enfants, en fait, c'est un support et un engagement de la ville à faire plein de choses pour les enfants, enfin pour les jeunes en général. Et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui a demandé beaucoup de travail, c'était un gros dossier. Et ce dossier, on l'a présenté l'année où justement l'UNICEF voulait mettre l'accent sur la participation des jeunes à la vie de la ville. Du coup, on a eu beaucoup de chance et le projet, il a été accepté avec beaucoup d'enthousiasme par l'UNICEF. Et moi, j'étais monté avec le premier adjoint et avec Maggie au conseil, enfin c'était à Paris, il y avait le sommet européen de Ville Amie des Enfants, et c'était super enrichissant parce qu'on a pu se rendre compte que Ville Amie des Enfants, c'était pas juste Sisteron, c'était plein de villes en Europe, et il y avait un gros dynamisme et plein d'idées de projets. On a initié aussi la création du skatepark, et on l'a vu se réaliser juste après notre mandat.
Est-ce que c'est bien de s'investir dans un CMJ?
C'est plus que bien, c'est même génial, parce que c'est vrai que quand on est jeune, on a du mal à faire entendre notre voix des fois, et du coup s'engager, c'est montrer qu'on est présent et que c'est pas les adultes qui font les trucs pour nous, c'est pour les jeunes, par les jeunes, et ça qui est vraiment important dans un CMJ.
Comment le CMJ s'organise pour mener à bien un projet?
Il se réunit en commission, on travaille tous ensemble dans le groupe pour faire émerger d'abord des idées, parce que bon, avant de faire un projet, il faut l'idée du projet. Et puis après, c'est un travail régulier. C'est vrai que ça demande du temps, mais souvent, on arrive à un résultat intéressant.
Qu'est-ce que ça vous a apporté humainement?
Beaucoup de rencontres, un peu d'organisation, parce que moi, je suis quelqu'un qui n'est pas très organisé, et quand on s'engage où que ce soit, on a besoin d'un peu de rigueur. Sinon, on est vite perdu. Après, ça m'a appris aussi à pas avoir peur de prendre la parole devant un groupe. Moi, j'étais assez timide. Et du coup, à force de me donner tous les discours à faire, j'ai appris à parler devant tout le monde sans avoir trop peur. Et puis, tout ça. Et puis, ça m'a surtout donné envie de m'engager dans plein d'autres trucs.
Est-ce que le CMJ aide à devenir un bon citoyen?
Je sais pas. Ça dépend de ce qu'on appelle bon citoyen. Mais en tous les cas, ça aide à devenir un citoyen engagé. Et c'est super important parce que on n'est pas que consommateur de ce qu'on fait, on est aussi acteur. Et ça fait, on en retire beaucoup plus de choses que quand on vient juste faire une activité si on l'a organisée avant.
Avez-vous envie de vous investir encore pour votre ville? Si oui, comment?
Est-ce que j'ai encore envie de m'engager pour ma ville? Oui. Maintenant, je suis plus politisé qu'avant au CMJ, mais du coup, j'ai fait campagne pour les municipales avec mon parti, et c'est vrai que c'est un plus haut niveau, c'est plus que pour les jeunes, c'est un peu pour tout le monde, et c'est vrai que c'est le CMJ aussi qui m'a poussé à faire ça.
Quel est votre plus beau souvenir d'élu?
Je pense que c'est à chaque fois qu'on a vu nos projets se concrétiser, que ce soit pour le skatepark qui était quand même un gros truc, pour Ville Amie des Enfants, c'est quelque chose d'énorme. Et puis c'est pareil, la soirée Jeunes Talents, c'était des bons moments parce que c'est festif, donc voilà, c'est la concrétisation vraiment des projets que j'ai retiens.
Nous parlerons dans un instant de la PJJ, mais tout de suite, petite pause poétique pour quelques onomatopées avec Armel et Carmen de la médiathèque André Romain.
L'onomatopée d'André Chédide.
Lolo, nono, mama, topé.
C'est pas possible à prononcer.
Glouglou, tic-tac, dodo, pépé, tout ça c'est de l'onomatopée.
Lolo, nono, mama, topé.
Un mot à vous rendre toqué.
Cui-cui, chut-chut, boum-boum, yé-yé. Voilà des onomatopées.
Lolo, nono, mama, topé.
Pourquoi vouloir tout compliquer?
Marc Zlaji est éducateur de la protection juridique de la jeunesse. À ce titre, il intervient auprès de mineurs délinquants ou en danger. Il les rencontre régulièrement et partage leur quotidien dans le but de leur apporter une aide éducative et favoriser leur réinsertion sociale. Marc opère sur notre département et prend sa mission très à cœur. Nous avons eu la chance de le rencontrer afin d'en savoir davantage sur la PJJ.
Les initiales PJJ, ça veut dire exactement protection judiciaire de la jeunesse. Donc c'est une administration et un service qui dépend du ministère de la Justice. Cette administration et ce service sert à mettre en œuvre les mesures qui sont décidées par des magistrats. En fait, c'est une administration qui applique les lois qui existent sur la protection de l'enfance et la délinquance des mineurs. Donc nous, on est chargé de mettre en place un ensemble de mesures et d'aides et d'accompagnement.
Concrètement, ça veut dire quoi, droits des enfants ?
Les droits des enfants sont définis par un ensemble de textes juridiques. Il y a des textes donc de la loi, code de la famille, le code civil, les conventions internationales des droits de l'enfant. Est-ce que vous en connaissez ?
Le droit de l'enfant ?
Le droit de l'enfant, vous avez étudié ça ?
Oui.
Voilà. Donc, les droits de l'enfant, c'est pour un peu vérifier et veiller à ce que la santé, la sécurité, la moralité soient un peu sauvegardées.
Quand et qui a créé la PJJ ?
Sa création, c'était juste après la Deuxième Guerre mondiale, donc en 1945, parce qu'il y avait un choix qui a été fait par rapport aux enfants. C'était de œuvrer pour leur bonne évolution, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant, les enfants travaillaient dans les mines. Il y avait également des enfants soldats. Donc il y avait une volonté collective de se dire finalement, la place de l'enfant, c'est à l'instruction, c'est à l'école, et c'est pas à effectuer des tâches rémunérées. D'où l'idée de protéger les enfants de l'exploitation donc au niveau du travail, parce qu'on avait conscience que la meilleure lutte contre également la délinquance, c'était de garantir une bonne éducation aux enfants. Une priorité a été donnée, donc à partir de cette date, à l'éducation. Alors qu'avant, par exemple, la sanction, c'était plutôt la prison, il y avait des bandes d'enfants, ce qui n'existe plus actuellement.
Est-elle composée de bénévoles ou de salariés ou des deux ?
Dès la création, donc, à l'époque, ça s'appelait d'ailleurs l'éducation surveillée, il y avait des bénévoles. Mais tout de suite après, c'est devenu une administration, à savoir des gens salariés, mais qui se sont engagés dans cette voie. C'est un engagement personnel de travailler pour protéger, accompagner et aider les enfants.
Vous-même, quel est votre statut ?
Alors moi, je suis éducateur, je travaille dans le département du 04. Moi, par exemple, je travaille beaucoup dans votre commune, Sisteron, Barcelonnette, mais je suis appelé à travailler sur l'ensemble du département. On travaille sur un mandat judiciaire, à savoir c'est un juge qui demande à ce qu'on suive des jeunes qui peuvent être en difficulté pour essayer d'apporter le maximum d'aide possible. S'il y a des difficultés familiales, d'essayer de trouver une solution. S'il y a des problèmes de scolarité, d'essayer également de trouver une issue. Il y a également une autre facette de métier, c'est d'éclairer la décision du magistrat, à savoir le juge des enfants. Il va demander une petite enquête, ou on appelle ça un recueil de renseignements, ou bien une investigation, ça veut dire une enquête un peu plus approfondie, pour essayer d'apporter le maximum d'informations pour que le juge des enfants, ou bien le procureur, puisse prendre une décision dans l'intérêt toujours de l'enfant.
Qui bénéficie des services de la PJJ ?
Alors, ceux qui bénéficient des services de la PJJ, c'est uniquement des mineurs. Donc, la définition de mineur, c'est quelqu'un qui a moins de 18 ans. Donc, c'est le public cible de la protection judiciaire de la jeunesse.
Est-ce une structure efficace ?
La tâche est difficile parce qu'on fait un pari. Il y a des choses qui sont un peu plus compliquées. On travaille sur la matière humaine. Et donc, souvent, c'est efficace. Ça veut dire, après, comment on la mesure, c'est une autre question. Mais en tout cas, dans la durée, il faut absolument qu'il y ait une intervention.
Où opère-t-elle ?
Le secteur d'intervention donc, de la protection judiciaire de la jeunesse, c'est sur l'ensemble des territoires français. Donc, ça veut dire en France métropole, dans les départements et territoires d'outre-mer. Par contre, il n'y a pas d'intervention à l'étranger. Ça concerne uniquement les enfants qui vivent en France. Sachant que la loi donc, elle s'applique sur tous les enfants qui vivent en France. Et on ne peut pas intervenir, par exemple, en Espagne, parce que c'est la loi espagnole qui régit les rapports.
Pensez-vous que la PJJ est suffisamment connue ?
Peut-être pas suffisamment, d'où l'intérêt de cette présence d'aujourd'hui, de faire connaître notre facette du travail. Mais c'est vrai que la PJ aussi n'est pas très connue, parce qu'en fait, lorsqu'on parle de la protection de l'enfance, à savoir des enfants victimes ou des enfants délinquants, eh ben ça représente quand même une petite minorité. Pas tous les enfants ont des problèmes, il y a quelques-uns qui ont des problèmes, et c'est pour ça qu'on intervient, uniquement pour ceux qui ont des difficultés et des problèmes.
Quels sont ces moyens de financement ?
Les sources de financement, c'est un service public, donc c'est le résultat des impôts, hein, donc c'est les moyens que l'État donne pour qu'on puisse accomplir nos missions.
Comment pourra-t-elle se développer ?
Elle se développe parce qu'elle a besoin de s'adapter aux nouvelles réalités, à savoir il y a des situations nouvelles qu'on rencontre, il y a des enjeux nouveaux. Après, c'est l'adaptation et l'évolution se fait également par une volonté collective, politique, à savoir à un moment, il y a des nouveaux textes qui sont votés ou qui sont modifiés, toujours pour s'adapter à la réalité. C'est pas figé, on est appelé à s'adapter à la réalité du quotidien des familles et des enfants.
Y a-t-il beaucoup de dossiers en cours sur notre département ?
Non, on ne peut pas dire qu'il y a beaucoup de dossiers en cours. Par exemple, pour vous donner une idée, on traite 120-130 dossiers par an. Par rapport au nombre d'enfants qui sont sur le département, c'est très peu.
Pour contacter la PJJ, comment cela se passe ?
On a un local, une adresse, 21 boulevard Victor Hugo à Digne-les-Bains. On a également un numéro de téléphone, c'est le 04 92 36 68 00. N'hésitez pas à nous appeler parce qu'on fait également de l'information et de l'orientation pour informer les gens, conseiller les gens et pouvoir apporter un maximum d'aide possible.
Nous retrouvons le dernier poème court d'Armel et Carmen, Fou c'est fou, extrait du livre Tireur de langue, anthologie de poèmes insolites, étonnants ou carrément drôles de Jean-Marie Henry, paru aux éditions Rue du Monde.
Discours fou de Carol Apple.
Fou c'est fou.
Les fous sont fous.
Être fou c'est tout.
Être tout c'est fou.
Et ne pas être fou c'est tout.
Être tout n'est pas fou.
N'être rien c'est être fou.
Être fou ce n'est rien.
Tout est fou.
Fou c'est tout.
Parce que tout est fou.
Pourtant tout est fou.
Et ne pas être fou c'est être fou.
Après tout rien n'est fou.
Les non-fous sont fous.
Et les fous ne sont pas fous.
Fou c'est fou. Fou, 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 fou. Fou.
Jouer, c'est partager. Tel est le thème des manifestations organisées en 2014 à Sisteron, dans le cadre du programme Ville Amie des Enfants UNICEF. À partir d'aujourd'hui et durant plus d'un mois, de nombreuses activités sont au programme. Christophe Léon, adjoint à la jeunesse, évoque la place des jeunes à Sisteron et donne tous les détails sur le programme que l'on peut annoncer, riche et varié. Bonjour Christophe Léon, quel est le thème du mois Ville Amie des Enfants ?
Bonjour, alors nous avons comme chaque édition depuis 2010 une thématique qui est en fil conducteur de notre programmation et cette année le thème c'est jouer, c'est partager. Donc le thème du jeu qui est au cœur donc de notre programmation.
Pourquoi avoir choisi ce thème et que signifie-t-il ?
Alors, nos différents partenaires de Ville Amie des Enfants, les services municipaux, les écoles, la cité scolaire réfléchissent ensemble à la thématique. Et cette année, il est apparu qu'avec un contexte économique qui était un petit peu difficile, où les enfants, des fois, perçoivent les difficultés de leur entourage au quotidien, financièrement, au fait aussi que les loisirs sont en évolution depuis quelques années, avec notamment la place du numérique qui est croissante, eh bien la dimension du jeu était à questionner et à reproposer, à la fois comme élément de création personnelle, mais aussi partage avec les autres, ses camarades, sa famille, et puis un intérêt pour les jeux anciens comme récents auxquels les enfants sont sensibles. Et donc cette thématique du jeu qui est ludique, mais qui aussi porte en elle beaucoup d'éléments de création et de réflexion, nous a paru la plus intéressante pour cette édition-là.
Peut-on dire que le programme est riche cette année ?
Eh bien, en tout cas, c'est ce que l'on espère. Alors, comme vous le savez probablement, depuis la rentrée de septembre, dans les écoles, il y a maintenant de nouveaux rythmes scolaires qui ont été mis en place. Et dans ces nouveaux rythmes scolaires, il y a ce que l'on appelle les temps d'accueil périscolaires, les TAP. Et la ville de Sisteron, depuis la rentrée de septembre, a un programme de déploiement au sein de ces TAP qui est reconnu et qui est efficace. Et donc, en lien avec Jouer, c'est partager, nos équipes du département jeunesse vont intervenir directement dans toutes les écoles de la ville durant ces temps de TAP pour proposer des ateliers de jeux coopératifs Et également, solliciter la création de jeux avec des matériaux recyclables. Donc on est là en plein dans nos objectifs. Susciter motivation, participation, amener à la connaissance des outils et des ressources au sein de nos animateurs pour conforter durant ce temps de TAP eh bien une offre pédagogique à destination des jeunes cisteronnais. C'est vrai que parmi les différentes villes amies des enfants que compte eh bien le réseau UNICEF, Sisteron est probablement l'une des rares villes à avoir un programme qui est étalé sur plusieurs semaines et cette année même depuis les vacances d'automne jusqu'au 20 décembre. Donc ça fait près de 2 mois d'animation qui plus particulièrement s'adresse donc aux engagements liés aux droits de l'enfant. Nous avons donc un programme important d'exposition, de conférences, d'intervention dans les écoles et puis bien évidemment autour du jeu, des créations auxquelles les jeunes sont aussi appelés à contribuer.
Les manifestations débutent aujourd'hui. Quel est le menu ?
Alors effectivement, on est le 20 novembre. Le 20 novembre, c'est la journée internationale des droits de l'enfant. Donc c'est un temps fort parmi les différents temps forts de notre programmation. C'est bien entendu celui qui est le plus symbolique. On est là lié avec tout le réseau Ville Amie des Enfants, main dans la main, autour des droits de l'enfant, ce jour du 20 novembre. Et puis on a donc démarré, dès le 24 octobre, un vendredi, par une grande réussite qui a été celle d'une soirée jeux en famille ou au Tivoli, peut-être que vous y avez participé. Il y a eu donc des plateaux de jeux, des intervenants, notamment ceux de l'accueil de loisirs d'automne, qui ont permis à près de 200 jeunes de partager avec leurs camarades et leurs familles un bon moment de joie. Là, c'était donc le premier temps fort. Et puis ensuite, nous avons jusqu'au 20 décembre donc une série de rendez-vous. Par exemple, je peux vous parler du dimanche 7 décembre avec une bourse aux jeux au jouet qui est organisé au complexe des Mars au profit de l'UNICEF. Nous avons le mercredi 17 décembre un grand concert de Noël avec l'harmonie de Sisteron au profit des actions de l'UNICEF au Liberia. Et puis le concours d'écriture et de mots à la médiathèque qui sont des temps forts de notre programmation. Alors on peut également citer au Pôle Jeune un café par an, ce sera le 26 novembre de 18h30 à 20h, autour de la thématique des écrans. Puisque nous allons avoir un fil conducteur jusqu'au printemps 2015, depuis le Pôle Jeune, sur cette thématique, pour sensibiliser les jeunes et les parents à la pratique des écrans. Donc le 26 novembre, c'est Mon ado, les écrans et moi dans tout ça. Donc ça s'adresse autant aux jeunes qu'aux parents, en partenariat avec la Maison des adolescents basée à Manosque. Et puis nous aurons, plus tard dans l'année, un grand professeur de médecine, le professeur Tisseron, qui sera à l'Alcazar pour une conférence tout public sur cette même thématique des écrans, avec son travail autour des créneaux d'âge 3, 6, 9 et 12, qui sera donc proposé pour un grand moment du service jeunesse.
Quelle manifestation retenez-vous plus particulièrement ?
Alors bien évidemment, dans un programme très riche, c'est toujours difficile de retenir une manifestation, puisque nous, notre intérêt, c'est que dans différents lieux de la ville, le pôle jeune, les écoles, la cité scolaire, les galeries d'exposition, eh bien, il y a un public très divers, de la petite enfance aux jeunes adultes et aux parents, qui justement aient accès à ce programme-là. Donc si je retiens un temps fort, ce sera peut-être celui de la bourse aux jouets, qui aura lieu le 7 décembre au complexe des Mars, toute la journée. Parce que déjà, les particuliers, les enfants sont invités à porter des jouets dont ils ne se serviraient plus sur le stand de Sisteron Ville Amie des Enfants, qu'on vendra alors au profit de l'UNICEF et de ses actions. Et puis également, les particuliers sont invités à venir tenir leur propre stand de bourse aux jouets. Et leur prix pour tenir la place sera également reversé là à l'UNICEF et à ses actions. Donc c'est un temps fort parce que c'est la rencontre vraiment de la ville dans sa diversité au profit de l'UNICEF.
C'est la fin de notre émission spéciale consacrée aux droits des enfants.
C'était Manel,
Zakaria,
Nina,
Nadir
et Widjen,
les reporters engagés de Sisteron.
Nous espérons que le contenu a été de qualité et que vos pensées du jour iront vers les enfants de la planète.
Venez nombreux participer aux manifestations prévues à Sisteron dans le cadre de Ville Amie des Enfants UNICEF.
Merci aux intervenants qui ont bien voulu répondre à toutes nos questions, à la municipalité de Sisteron et son département jeunesse qui nous donne les moyens de nous exprimer.
Un grand merci à Hélène du Pôle Jeune, Nadia de la GOC et Patrice de Fréquence Mistral pour nous avoir accompagnés dans ce projet.
Nous concluons cette émission avec Tout Fun, Se laver les mains, une chanson écrite pour l'UNICEF.
Salut !
Ne négligeons pas notre environnement et notre hygiène.
Voici un moyen simple, efficace, économique pour notre santé. Encore hein. Déjà, ça c'est pas bon.
Ça c'est grave.
Les jeunes c'est bien, ça commence par toi. Donne le bon exemple et tu verras. Lave tes mains au savon. Frotter, frotter, c'est déjà bon. Se laver les mains au savon, ça t'apporte la joie. Tout d'abord, tu vois tout est clignot. Les germes débarrassés, parasites débarrassés, microbes débarrassés, bactéries débarrassées. Se laver les mains est un geste qui sauve. Master Jazz, hey. Oh. Allez,